Bifurcation. Bonjour.
Bonjour.
On commence cet épisode en vous remerciant de votre écoute des deux premiers épisodes. Vos retours ont été précieux et nous ont donné quelques pistes d'amélioration. On remercie aussi Quentin de la MJC Bobby Lapointe pour son accompagnement sur les sujets techniques. On apprend plein de choses en préparant nos contenus. Si vous souhaitez être informé par mail de la sortie des prochains épisodes, on vous propose une petite newsletter en complément avec quelques photos pour illustrer nos propos. Envoyez-nous vos mails. Vous pouvez nous écrire à l'adresse bifurcationvf@proton.me. On la note aussi en description, pas de panique. Et sinon, les prochains épisodes sortiront en fin de chaque mois.
Bifurcation épisode 3, Mars, ça claque.
Dans le précédent épisode, on vous a raconté notre mois de février, premier périple.
Ce mois-ci, on était de retour dans la région orléanaise pour faire des travaux et l'aménagement de notre camion. Puis en Essonne pour une semaine de stage dans une ferme maraîchère. Pour finir le mois, nous sommes retournés à Angers pour une semaine de cours, plus précisément une semaine d'options. J'ai fait transformation de fruits et légumes et Flavie, transformation de produits laitiers.
Reprenons dans l'ordre. Pour commencer, petit focus sur cette histoire de camion.
Il s'agit d'un Peugeot Expert Compact, acheté d'occasion en décembre et qu'on avait envie d'aménager pour pouvoir y dormir lors de nos périples.
Bon, on n'est pas des vanlifers professionnels, mais on se dit que ça peut vous intéresser d'avoir un petit aperçu de nos choix et nos méthodes de bricolage. Alors on vous raconte. D'abord, le choix du véhicule.
On a hésité entre un utilitaire et une grande voiture. C'est notre besoin d'aménagement qui nous a décidé. Avoir un lit, mettre nos affaires en dessous et s'asseoir au-dessus. C'est ce qui nous a orienté vers des utilitaires, des formats type expert ou jumpy. Ensuite, on voulait un véhicule qui puisse aller à peu près partout. Donc passer sous les barres de parking, pouvoir se garer facilement en ville, assez récent pour la fiabilité et pour correspondre aux normes anti-pollution. Pour ça, on s'est fixé un budget d'environ 10 000 euros. On a eu l'aide du frère de Flavie, fan de voitures et du bon coin, pour nos recherches. On a été voir chez un concessionnaire pour se rendre compte des dimensions en réel. On a ensuite ajusté notre budget, on préférait mettre un peu plus pour respecter nos critères. Quelques centaines de recherches plus tard, on a trouvé notre véhicule pour 12 500 euros. Un expert de 2018, 168 000 km et bien entretenu.
On n'avait plus qu'à dessiner les plans d'aménagement. Voilà nos objectifs. On voulait pouvoir replier le lit pour s'installer en mode banquette, en cas de longue journée pluvieuse, et un petit espace pour les toilettes sèches et des rangements.
Pour arriver à ce résultat, on vous partage les grandes étapes de cet ameublement.
De l'extrême. On commence par faire deux plans du camion vide, un plan au niveau zéro et un à plus 40 cm de hauteur, parce que c'était là qu'on imaginait installer le lit. Puis, dessin et découpe d'un plan de meubles qu'on imaginait mettre pour pouvoir superposer ces meubles et le plan du camion vide. De nombreux essais plus tard, là encore, on s'arrête sur la version définitive. On fait des gabarits en carton pour se rendre compte un peu mieux des proportions.
Ensuite, on passe à la partie réalisation. On vide complètement le camion. On enlève les plaques de bois, la séparation en tôle entre la cabine et le coffre, les caches, etc. Puis on astique. Vient alors l'heure de l'isolation. On a choisi deux matériaux complémentaires. Du liège projeté pour couvrir la tôle et un mélange de laine, chanvre, lin pour combler les renfoncements des parois. Puis on a remis tout ce qu'on avait enlevé pour pouvoir faire l'isolation. Une vraie partie de plaisir.
L'étape suivante a été de mettre un lino sur le sol, qu'on découpe sur mesure. Et enfin, la construction de nos meubles en bois. Toilette sèche, banquette avec un coffre et lit peigne. Un lit avec des lattes qui s'emboîtent quand il est replié. Et on a aussi installé un rideau thermique entre la cabine et l'arrière.
Pour ces étapes, un grand merci à la famille et spéciale dédicace à nos amis Manon et Auréline, qui nous ont accueillis et aidés pour une semaine de bricolage. Elles nous ont mis à dispo leurs outils, leurs compétences et leur bonne humeur. Grâce à leur aide et à la surveillance active de leur chat Franky, star du jingle ce mois-ci, on a pu terminer cette V1 d'aménagement, juste la veille de notre première nuit en camion pour notre stage.
On voulait aussi faire un petit focus sur ces semaines de bricolage parce que c'était une première pour moi. J'ai appris plein de vocabulaire, découvert des outils et quelques gestes. Mais aussi parce qu'on a pu remarquer que savoir bricoler, c'est une compétence clé pour les paysans. Savoir réparer ses outils ou les adapter selon ses pratiques, ça participe clairement à la maîtrise de son outil de travail.
Semaine suivante, on va en Essonne. C'est marrant de prendre la route qu'on faisait souvent entre Orléans et le Chenou des dernières années. Mais cette fois-ci, on s'arrête à la ferme Sapousse. Pour vous présenter la ferme et ses acteurs, on vous laisse écouter l'interview des associés, Sylvie et Florent. Interview réalisée un jour de beau temps dans la forêt à côté de la ferme.
Eh bien moi c'est Sylvie, on est installé à Pucet dans le sud de l'Essonne, sur 4,7 hectares exactement. Et on fait des légumes, des plantes aromatiques et médicinales, des fruits qu'on transforme et un petit peu de miel.
Moi c'est Florent et je fais pareil avec Sylvie.
Et du coup, ce matin, on a fait la récolte pour préparer les paniers de l'AMAP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le principe de distribution que vous avez choisi ?
L'AMAP, c'est un système qui a été inventé par des mamans japonaises dans les années 1970 qui en avaient marre que leurs enfants mangent des produits avec des pesticides et respirent un air avec des pesticides et qui ont été voir leurs voisins agricultrices, agriculteurs en leur disant « je t'achète toute ta récolte si tu te passes des pesticides ». Et donc c'est ça le principe de la MAP. On a en face de nous 120 familles qui sont abonnées à la ferme pour l'année, qui sécurisent notre revenu en préachetant toute notre récolte. Et grâce à ça, en fait, bah, nous, on peut produire autrement. Et on a finalement l'esprit aussi un peu libre pour faire des innovations sur le sol, sur les engrais verts, sur l'outillage, l'autoconstruction, les semences. On peut faire ces innovations-là parce qu'on est sécurisé et on a un revenu qui tombe à chaque fois. Donc en gros, ça, c'est le grand principe. Et en pratique, la MAP, c'est les légumes qu'on a ensemble récoltés ce matin. Ils sont amenés ce soir à trois groupes de familles qui sont abonnés à l'année, qui participent à peser tous ces légumes-là, bénéficient chacun d'une part de cette récolte-là.
Nous, au départ, le projet, c'était pas de faire des légumes, c'était aussi d'avoir un rapport à la terre et d'avoir un métier qui ait du sens au quotidien. On travaillait tous les deux à faire pas mal d'allers-retours, on connaissait pas nos voisins, donc pour nous, c'était aussi se recentrer et faire partie d'un groupe de gens qui habitent à un endroit. Et la MAP, du coup, c'était aussi ça que nous, on avait vécu en tant que consommateurs avant. C'est-à-dire que, du coup, on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon. C'était pas s'installer pour faire des légumes, c'était s'installer en AMAP et s'installer à un endroit, quoi.
Je suis d'accord. Parce que finalement, c'est ça qu'on... Quand on est paysan ou paysanne en AMAP, on amène des légumes aux gens, mais on joue un rôle qui va au-delà. Enfin, quand on est paysan plus globalement, en fait, l'agriculture, elle joue sur l'alimentation. Mais nous, le fait que ce terrain-là il soit utilisé pour l'agriculture, c'est pas anodin. Il y avait, avant qu'on arrive, un projet de faire un Intermarché sur ce terrain-là. Puis après, il y a eu un projet à la découpe pour un aménageur, Next City, qui aurait rapporté du cash à court terme à la commune en faisant des pavillons. Et au lieu de cela, il y a une autre vision qui a été portée et on a installé une ferme vivrière avec des emplois qui ne sont pas délocalisables, avec des gens qui font de la nourriture pour ceux d'à côté, qui développent un mode de production qui contribue à dépolluer l'eau, qui préserve les écosystèmes, qui améliore le paysage avec des haies qui ont été plantées en toute jovialité grâce à la haie magique. Et donc on voit bien là que finalement, quand on est paysan, et notamment en AMAP, parce qu'on est très proche des gens qui mangent nos légumes, notre rôle il va bien au-delà de l'alimentation, quoi. C'est un vrai rôle territorial.
Là, on est installé sur les terres de la commune de Pucet. Donc le propriétaire, c'est la mairie. On a répondu à une annonce publiée par Terre de Liens. Nous, on habitait à 15 minutes d'ici, à Étampes, et on est venu rencontrer la mairie ici. Donc on est en location. On a juste acheté la partie où on a construit le hangar et la maison. Et ça nous va très bien. Ça a aussi du sens d'être sur un terrain communal. On est là aussi pour les gens d'ici, quoi.
On a un peu parlé du lien entre les adhérents qui nous sécurisent notre revenu et notre possibilité de changer de mode de production pour être plus respectueux de l'environnement, parce que c'est ça qu'ils attendent. C'est vachement important ça, parce que notamment là dans le contexte des mobilisations agricoles actuelles, il y a plein d'agricultrices et d'agriculteurs qui sont sortis crier en disant « bah vous êtes sympa de nous demander de faire mieux en termes d'environnement, mais vous ne nous sécurisez pas notre revenu ». Et donc du coup, c'est pour ça que nous, on considère que c'est vraiment actuel ce qu'on vit en AMAP là, parce que c'est parce qu'on nous sécurise ce revenu qu'on peut protéger l'environnement. Et du coup, je voulais juste réexpliquer un peu comment on sécurise notre revenu. Finalement, nous, chaque année, avec les adhérents, on explique en assemblée générale combien ça coûte de produire tout ce qu'il y a sur notre ferme. Et donc, du coup, on va lister tous les coûts de production, en partant du loyer qu'on paye à la mairie, des taxes qu'on paye sur l'eau, le petit matériel qu'on rachète chaque année, les cotisations sociales, donc notre protection sociale, le revenu qu'on se tire, du coup, on se tire chacun 1 850 € net par mois. Et du coup, on agglomère tout ça. Et ça fait à peu près 90 000 € qu'on divise par le nombre de familles adhérentes. Et du coup, chaque famille paye 1 210 € par an. C'est ce qu'on appelle une part de la production. Finalement, ils sont comme coproducteurs, comme co-sociétaires. La démarche de la MAP, c'est aussi de faire de l'éducation populaire pour qu'ils comprennent vraiment le coût de leur production. Donc finalement, au-delà de nous garantir des bonnes conditions de travail et de vie, c'est aussi pour eux maintenir l'agriculture dans la durée, quoi. Et c'est dans leur intérêt, en fait, de ne pas avoir des gens qui, au bout de 3 ans, arrêtent parce qu'ils sont sur un modèle économique où ils ont tout donné et où ils se sont cassés la santé sans tirer de revenus. C'est dans l'intérêt, en fait, de tout le monde d'avoir des paysannes et des paysans qui vivent heureux sur des fermes qui sont résilientes et économes et qui permettent vraiment d'avoir du bien-être, quoi.
Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire votre outil préféré ?
Mon outil préféré, c'est la motteuse, parce que j'aime bien faire des mottes. Et une motteuse sert donc à faire des petits carrés de terreau pour mettre des petites graines dedans. Et moi, j'aime bien mettre des petites graines aussi. J'aime bien semer, en fait. J'aime bien l'idée d'être à l'origine d'un petit truc, de faire ce geste qui, après, fait qu'il y a que ça pousse, qu'il y a des légumes. Enfin, j'aime aussi bouturer. Et du coup, on fait tous nos plants sur la ferme.
Moi, c'est le chariot porte-tout. Direct. C'est un gros chariot qui est assez haut, qui a 4 roues de moto et qui permet de porter plein de caisses sans essence à plusieurs. Et du coup, on l'a auto-construit dans le cadre de la coopérative Atelier Paysan. Et je l'adore parce qu'il tourne quasiment à 360 degrés dans un petit espace. Du coup, il est très très pratique et surtout, il symbolise la coopération parce qu'il a été conçu en collectif. Et pour l'utiliser quand on a beaucoup de trucs dessus, c'est cool d'être 2-3.
Bifurcation.
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 Notre semaine chez eux commence par une réunion d'équipe, pendant laquelle on liste et on planifie les tâches à réaliser. On découvre qu'ils utilisent d'autres outils pour avoir une vue d'ensemble. Un planning des semis et des tableaux de mémo, par exemple. Le tout est affiché et visible par tous.
C'est aussi l'occasion de faire un tour de table. Parce que cette semaine, il y a du monde à la ferme. Et notamment 3 personnes qui suivent ou ont suivi le programme de compagnonnage de l'association Ferme d'Avenir. On a demandé à Loïc et Camille de nous raconter de quoi il s'agit. Loïc, tu as terminé ton compagnonnage. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le principe ?
Du coup, le compagnonnage, c'est très simple. C'est une formation donc en maraîchage agroécologique où on est en itinérance et en immersion dans 3 fermes différentes. Le choix, il est fait en fonction de nos intérêts et de nos projets. On peut choisir entre, par exemple, du MSV, du verger. Si on veut faire un atelier poupondeuse sur notre projet, ils feront en sorte en fait qu'on se retrouve sur des fermes qui correspondent au projet qu'on souhaite faire. Et du coup, ce qui est intéressant avec cette formation-là, c'est qu'on nous propose de nous aider à construire notre projet.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les fermes que tu as été rencontrées et leurs activités principales ?
Alors la première ferme, elle était du côté de Gap et ils étaient essentiellement maraîchage. Et particularité, c'est qu'ils étaient en chantier de réinsertion. Donc il y avait beaucoup de monde. C'était très intéressant d'un point de vue humain et du coup social, mais aussi d'un point de vue maraîchage, hein, bien sûr. Grosse structure, beaucoup de serres et très intéressant d'évoluer dans ce milieu-là. Ensuite, je suis remonté un peu plus au nord-ouest, donc dans le Maine-et-Loire, la ferme des Champs des Treules. Donc la structure plus petite en GAEC, deux copains d'enfance qui ont créé leur ferme et qui sont, eux, en MSV et non-travail du sol total, quoi. Le tracteur, il l'utilisait seulement pour l'apport de matière organique, pour soulager le travail. Et ensuite, j'ai retrouvé l'Île-de-France, donc la Seine-et-Marne où je vis, et sur une ferme, les Limons de Toulotte, qui sont en maraîchage biologique.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que toi, tu as envie de faire après ton projet d'installation ?
Pour ma part, et suite au compagnonnage, et aussi pendant le compagnonnage, parce que j'ai pu construire mon projet grâce à eux, je m'orienterai donc, sur du maraîchage agro-écologique sur petite surface, donc à peu près 1,5 hectare. D'un point de vue méthode, je me rapprocherai plus sur une méthode Fortier et du maraîchage comme il se pratiquait au début du 19e siècle. Donc des petites planches, voilà, une dizaine de jardins, à peu près de 540 mètres carrés, avec trois serres et de la diversité en légumes, mais pas trop pour pas trop me disperser. Ouais, aussi des arbres fruitiers qui seraient incorporés entre chaque jardin.
Super, on a hâte de venir te voir bientôt. Et donc Camille, on t'a aussi rencontré ici à la ferme Ça Pousse. Toi, tu es en ce moment en compagnonnage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi et ce que ça t'a apporté jusque-là ?
Alors du coup, de mon côté, pour le compagnonnage, j'avais un triple objectif. J'ai un projet en maraîchage et un atelier complémentaire que j'aimerais bien apporter sur l'exploitation, mais que je n'ai jamais testé. Donc c'est poule pondeuse en poulailler mobile. Et du coup, l'idée était de tester cette activité et voir si c'est un rythme, ou en tout cas si c'est quelque chose qui me convenait. C'était aussi avoir la capacité agricole qui est nécessaire pour avoir une exploitation. Et en dernier lieu, c'est vraiment apprendre vraiment plein de choses de ce que peuvent nous apporter les exploitants, que ce soit en termes de façon de travailler, de techniques culturelles, par exemple le MSV que je n'avais jamais vu, et du coup qui est du maraîchage en sol vivant où on va pas travailler le sol. Et ce que ça m'apporte déjà, c'est voir une structure qui est quand même un peu plus grande que ce que j'avais prévu initialement, avec beaucoup d'engrais verts, donc qui sont là pour restructurer, apporter de la matière organique ou de l'azote au sol.
Et du coup, la ferme Ça Pousse, c'est la première ferme que tu fais dans ton programme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les deux prochaines fermes et quels étaient tes critères de recherche ?
Oui, bien sûr. Du coup, la prochaine ferme, donc, c'est le Jardin du Buèche, où Loïc a été également. Et ensuite, Potager et Compagnie, qui est également en région PACA. En termes de critères, donc, ce qui était important pour moi, c'était vraiment de voir des activités donc, où il pouvait avoir des poules pondeuses en poulailler mobile. Donc ça, c'était vraiment le principal. Il y avait aussi un critère de localisation, un climat qui pourrait ressembler à celui du sud-ouest, donc assez chaud. Enfin, j'étais intéressée également par l'agroforesterie et le maraîchage sur sol vivant, du coup, que je ne connaissais pas.
Au fil de la semaine, on a pu expérimenter énormément de choses. On a passé une journée avec Sylvie, qui est responsable du labo de Transfo, pour transformer des PPM, un sigle qui signifie plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Il peut s'agir de thym, de menthe, de romarin par exemple. À la ferme Ça Pousse, les plantes sont séchées puis mises en grands pots. Nous les avons triées, pesées et mis en bocaux pour la cuisine ou en sachets pour des tisanes. Un travail bien minutieux. Sylvie et Florent travaillent sur des zones de culture fixes, appelées planches permanentes. Entre ces planches, des chemins, appelés passe-pieds, servent pour les passages de roues ou pour les pieds. Ainsi, les zones cultivées ne sont jamais tassées. Nous y avons fait de l'amendement. Dans notre cas, on a apporté du compost bien mûr qui va nourrir la vie du sol. Nous avons semé et repiqué. Semer veut dire mettre une graine en terre, soit en pleine terre, soit dans des mottes, et c'est à cette étape que la motteuse dont parle Sylvie est bien utile. Et repiquer, c'est mettre une plante dans un pot plus grand ou en pleine terre. Et les haricots, on les a
semés sous serre.
Les choux
repiqués en plein champ.
Les radis
semés avec un semoir. Un outil qu'on pousse et qui fait tourner un engrenage. Ça fait tomber les graines avec un espacement régulier. On adapte selon les besoins des légumes.
On a aussi participé au renouvellement de plantes aromatiques. Menthe, thym, citron, verveine.
Le vendredi, c'est récolte et préparation des paniers d'AMAP. Choux, salades, mâches, radis et poireaux, tris carottes et courges pour mettre en panier. On retourne en stage à la ferme Ça Pousse plusieurs semaines d'ici début octobre. Ça nous permettra de voir leur travail aux différentes époques de l'année et de vous raconter tout ça.
Pour la dernière semaine de mars, nous voilà repartis à Angers pour une UCAR. Ce sont des cours supplémentaires qu'on sélectionne parmi les propositions de l'école. Il y a
apiculture,
transformation laitière,
transformation fruits et légumes,
concevoir un système en permaculture,
valoriser les plantes sauvages,
produire des semences horticoles,
Nous avons 1 à 2 semaines consacrées uniquement à l'une de ces thématiques, avec parfois un stage dédié. Le problème, c'est le choix. Tout semble intéressant.
Pour ma première UCAR, j'étais sûr de ce que je voulais. J'ai pris transformation fruits et légumes. Je voyais plusieurs avantages à apprendre ça. Valoriser l'ensemble d'une production, y compris les fruits difformes ou abîmés, et prolonger la durée de consommation des fruits grâce à la conservation. Pour mon deuxième UCAR, par contre, le choix était difficile. Mais j'ai finalement priorisé les plantes sauvages.
Et moi, j'ai pris transformation de produits laitiers, par curiosité. Et puis, parce qu'on aime bien le fromage. Alors, un jour, la compétence pourrait m'être utile. J'aurai un stage d'une semaine à faire dans ce domaine. Et puis en second, j'aimerais faire une semaine sur valoriser les plantes sauvages. Je trouve ça chouette de pouvoir reconnaître des plantes déjà présentes, déjà parce qu'elles peuvent dire des choses du terrain où on se trouve, et en plus, parce qu'il y a une petite chance pour qu'elles puissent se manger ou être utilisées.
Cette semaine, c'était l'option de transformation.
Les thèmes abordés ont été les réglementations,
parce que le producteur a une obligation de résultat, mettre sur le marché un produit sûr et sain.
Et conception d'un labo, adapté là aux règles et aux usages.
Puis on est parti chacun dans nos productions. J'ai passé la semaine dans le labo de l'ESA pour transformer des fruits et des légumes. Et Flavie dans un tiers lieu qui s'appelle Sebio l'Anjou pour transformer du lait.
Avant de vous raconter, on vous laisse écouter notre échange avec Fanny Côté qu'on a interrogé sur les tiers lieux.
Salut Flavie, salut Valérian. Moi c'est Fanny, je suis doctorante en urbanisme et je travaille sur comment on peut fournir des bureaux et des locaux d'activité pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les métropoles où ces acteurs ne trouvent pas forcément de bureaux accessibles, pas chers, voilà, avec des surfaces disponibles et adaptables pour leur activité. Et donc ça m'a aussi amenée à regarder un peu ce que sont les tiers-lieux en France. Donc, je travaille principalement dans les métropoles, mais il y en a aujourd'hui partout en France. Pour essayer de donner une définition de ce terme complexe, je vais revenir à sa source et à son origine, même si j'aime pas forcément cette définition. Le terme tiers-lieu, il a été proposé par un sociologue de l'urbain qui s'appelle Ray Oldenburg dans les années 1980. À la base, il a construit le terme tiers-lieu pour critiquer l'action des urbanistes et des aménagistes dans les villes qui, justement, n'intégraient plus dans les plans d'urbanisme et d'aménagement des lieux de sociabilité, des lieux, effectivement, où on pouvait se rencontrer, des lieux qui ne seraient pas forcément uniquement portés sur la consommation marchande. Voilà, il faisait le constat, en fait, qu'on était juste sur, dans les villes américaines, un trajet où on fait métro, boulot, dodo, et puis voilà, ça s'arrête là. Et donc, il faisait le constat d'une perte de sociabilité et de ces lieux super important. Et donc, il parlait, lui, des cafés, des bureaux, même bureaux de tabac, des bibliothèques, des grands centres commerciaux. Et donc, c'est une notion qui a été petit à petit, dans les années 2000, récupérée aussi par d'autres communautés qui avaient besoin de se retrouver pour pouvoir travailler ensemble, créer d'autres espaces, effectivement, de travail, un peu ce qu'on dit souvent dans les tiers-lieux, en dehors du domicile et en dehors du pur espace de travail, donc des lieux un peu hybrides où on pourrait travailler, se rencontrer, profiter, avoir des activités de création, de formation. Et donc là, voilà, l'origine un peu de ce terme qui a beaucoup navigué. En France, aujourd'hui, on en a une compréhension qui est très tournée autour du travail. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a un peu organisé depuis la politique publique qui est née vers 2018-2019. On lui a donné une vraie coloration, en tout cas, de lieu de travail qui ne serait pas uniquement le lieu de l'entreprise traditionnel. Et donc, il y a une politique publique qui s'est structurée en France. Et donc, depuis, on a recomplexifié un peu ce terme. Et donc, on lui a donné aussi une coloration avec différentes typologies où on aurait des lieux plutôt dédiés au travail, mais aussi des lieux dédiés à la production artisanale, des lieux dédiés à la culture. Donc, il y a toute la mouvance des lieux culturels indépendants qui, aujourd'hui, peut se rattacher aussi aux tiers-lieux. Des lieux plutôt associatifs, citoyens ou encore rattachés au secteur de la santé. Et enfin, aussi, toute la mouvance des écolieux que vous connaissez. C'est peut-être un peu plus qui peuvent aussi rentrer maintenant dans cette appellation très grande et très large de tiers-lieux. Et les derniers recensements de la politique publique qui a été créée sur le sujet mentionnaient 3500 tiers-lieux en France. Effectivement, ça va vraiment de la ferme pédagogique en milieu rural jusqu'à l'immeuble de bureaux partagés où on a 50 associations et coopératives qui travaillent ensemble sur des thèmes très différents, jusqu'au lieu culturel avec une salle de diffusion de spectacles et des studios, par exemple, de production, et jusqu'au café, qui reste le tiers-lieu un peu originel d'Oldenburg. Et pour faire la différence, parce que cette entre autres cette politique publique et le fait qu'il y ait 3500 tiers-lieux, c'est la porte ouverte quand même à beaucoup de lieux aussi marchands, voilà, créés par des entreprises qui sont dédiées uniquement au travail et avec une rentabilité derrière, etc. Je crois que ce qu'il faut retenir, et il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, sur cette définition-là aussi, sur ce que compose un tiers-lieu, enfin, un peu quelles sont ses caractéristiques. Il y a l'idée de mixité des fonctions, il y a vraiment d'hybridité, d'avoir voilà, plusieurs activités ensemble, de mixité des parties prenantes dans le tiers-lieu. Voilà, l'idée que ça rassemble plusieurs personnes, des collectifs citoyens, pourquoi pas des coopératives, des associations, mais d'avoir voilà, une pluralité des parties prenantes. Et aussi l'idée de faire tiers-lieu et de s'organiser en tant que tel, donc d'avoir une structure de gouvernance horizontale et qui permette effectivement que chaque partie prenante puisse s'exprimer. Voilà.
Merci, donc 3500 lieux en France à visiter. Retour sur ma semaine de transformation laitière. J'ai découvert la transformation de lait en fromage en wuffing, avec des chèvres, il y a 6 ans. Mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en refaire depuis. On peut dire que pendant cette semaine d'options, j'ai été servie, on en a fait. Un max. Du fromage frais, une tartinade, une tome, du riz au lait, du caramel.
Ça, j'ai adoré.
Des fromages blancs et beaucoup de yaourt. Le tout dans une ambiance sympa, avec notamment des personnes qui ont pour projet d'installation un élevage avec transformation à la ferme. Moi, ça m'a donné envie d'en refaire à petite échelle, mais pas vraiment d'en faire mon métier. On a aussi évoqué des aspects moins sexy de cette production. Par exemple, il faut savoir que pour 1 litre de lait transformé en fromage, c'est entre 4 à 8 litres d'eau utilisée. Dans le contexte actuel, on peut se demander si on fabriquera toujours autant de fromage dans quelques années. Et le vendredi, pour clôturer la semaine, c'était plutôt un cours sur l'affinage, et pour pouvoir se rendre compte de la diversité des fromages, on a été obligé de goûter.
Trop dur.
Du fromage de technologie la plus lactique, c'est-à-dire la plus acide, vers la technologie la plus enzymatique, c'est-à-dire vers les pâtes cuites, pâtes pressées cuites. D'accord ?
Et répartition de notre production pour pouvoir déguster chez nous. Valérian a aussi rapporté des choses à déguster de ses cours, on s'est régalé.
Des tartinades, des pickles, de la compote par exemple. En transfo fruits et légumes, j'ai fait 3 jours de pratique et 2 jours de théorie. Ça mélangeait les normes sanitaires à respecter, comme la marche en avant des aliments. La marche en avant, pour qui a des références à l'animation, c'est la même chose qu'en séjour. Les aliments doivent suivre un circuit qui évite des contaminations. Après, on a abordé toute la partie création de recettes, conditions et protocoles de conservation, puis on a testé nos recettes inventées, avec plus ou moins de réussite. J'ai pu voir et tester des outils, et on a réalisé un plan de labo. Perso, j'ai trouvé cette semaine vraiment très intense en information et très nourrissante. Maintenant, j'ai encore pas mal de questionnements, mais plutôt techniques que théoriques. En fait, c'est plutôt vers quel type de transfo je veux aller selon les normes, les investissements, les envies de recettes par exemple. Ou bien est-ce qu'il vaut mieux louer une journée de transfo dans un labo tout équipé plutôt que de construire son propre labo ? Bon voilà. Mais dans l'ensemble, ça me tente bien. Avant de vous dire à bientôt, voici nos recommandations du mois.
Pour ma part, ce sera un podcast qui s'appelle « Les pieds sur terre ». Si vous ne connaissez pas, foncez. Je trouve que chaque épisode est une pépite. Les témoignages de vie sont authentiques. J'écoute assidûment depuis 2020 et ça m'a fait voir le podcast comme une potentielle fenêtre sur le monde. C'est entre autres ce contenu qui m'a donné l'idée de partager notre itinérance en podcast.
Moi, j'ai terminé « Écotopia », un livre écrit par Ernest Kallenbach. C'est une fiction et l'histoire prend racine 30 ans après une sécession de l'Ouest américain pour des raisons écologiques. On suit l'histoire d'un journaliste des États-Unis qui va enquêter pour son journal dans ces États sécessionnistes. On y découvre une société très écologique et j'étais assez surpris de voir les idées d'actualité qui y sont développées alors que le livre date de 1975. Ça m'a rappelé aussi un autre livre qui présente un modèle de société qui s'appelle « Voyage en misarchie ». Donc voilà 2 livres assez surprenants et intéressants, je trouve, dans la manière de présenter des idées. Tout n'est pas bon à prendre, mais j'ai bien aimé que ce soit à la fois fictionnel et concret. Dans le prochain épisode, on vous racontera donc notre mois d'avril, rythmé par un stage chez un arboriculteur, des devoirs et un woofing chez un maraîcher en bord de Loire.
À bientôt !
Portez-vous bien !